Évangile de Jean, chapitre 11, verset 43. Notre thématique, évidemment, c'est toujours « Soyez remplis de l'Esprit ». En étudiant, en considérant ensemble les différentes facettes de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes arrivés depuis deux dimanches déjà à la symbolique du vent. Et puis, nous avons considéré non seulement les caractéristiques, les bienfaits du vent dans nos vies, mais nous avons aussi considéré que s'il y a du vent, et c'est très bien, il faut absolument qu'il y ait des gens qui sortent la grand voile. Il y a toujours la part de Dieu et il y a toujours la part de l'homme. Il y a sa part et il y a la nôtre. Dieu fait toujours la part d'impossible, mais nous, nous faisons la part de possible. La Bible dit, on l'a chanté, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'inverse marche très bien aussi. Ce qui est possible aux hommes est impossible à Dieu. Dieu ne fera jamais à ma place ce que je dois faire. Et il me rend toujours acteur des miracles. On a dit qu'il y avait du feu. Oui, c'est bien. Mais pour qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait un combustible. On a dit qu'il y avait du vent. Merci Seigneur. Jésus a dit, le vent souffle. C'est un grand principe. Le vent souffle. Si personne ne sort la grand voile, il n'y a aucun bateau qui avance. Hein. Oui, il y a du feu. Mais il faut mettre du bois dans la cheminée, c'est toi qui l'entretiens le feu. Oui, il y a du feu, t'as mis du bois. Mais il faut ouvrir les trappes, parce que sinon, s'il n'y a pas d'air qui passe, le feu n'est pas alimenté. Et c'est moi qui ouvre les trappes de mon cœur. C'est pas Dieu qui les ouvrira à ma place. D'accord? Il y a du vent, mais c'est moi qui ouvre les fenêtres, les portes de ma maison, pour que l'air circule et renouvelle, qu'il oxygène mon être intérieur. D'accord? Il y a toujours un parallèle humain. Il y a toujours quelque chose de particulier que l'homme doit faire pour favoriser l'action de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons spectateurs de ses miracles. Il nous rend acteurs de ses miracles. Il nous implique dans ses miracles. D'accord? Et on arrive toujours sur la thématique du vent de l'esprit, du vent de la résurrection, à un point particulier qui m'est revenu hier dans plusieurs méditations. J'ai changé de message, j'avais prévu de vous annoncer autre chose, ce sera pour plus tard. Et il y a cette pensée qui s'est imposée sur mon cœur hier soir. Jean, chapitre 11, verset 43. C'est ce moment extraordinaire, ô combien glorieux de la résurrection de Lazare. Jésus, verset 43, vient de prier et il s'écrie d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit. Oui, mais il sortit les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, c'est pas moi qui vais le faire. C'est pas moi qui vais le faire, c'est pas écrit, je le rajoute. Vous avez votre part à faire. Déliez-le et laissez-le aller. Il a les pieds et les mains liées de bandes, le visage enveloppé, ce qui est un signe aussi visible, extérieur, c'est une trace de son ancienne vie dans le tombeau, c'est une trace de sa mort. Il porte encore sur lui les stigmates de son ancienne vie. Il porte encore sur lui les stigmates de sa vie dans laquelle il était mort spirituellement. Plusieurs des Juifs, verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Notez bien cela, hein. Quelques-uns crurent en lui, d'autres allèrent trouver les pharisiens. Vous allez comprendre pourquoi. On va un peu plus loin au chapitre 12. Jean chapitre 12, on prend le premier verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Verset 2, là on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. On passe directement au verset 9. une grande multitude de Juifs, une grande multitude, apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Verset 10. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient du judaïsme à cause de lui, et ils croyaient en Jésus. Amen. Oh, ça a fait du pataquès, cette histoire. Il y en a des choses à dire, rien que sur ce qu'on a lu là. Ce verset 44 est un verset merveilleux, évidemment. Il nous montre comment l'action conjointe de la parole et de l'esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit que Jésus a ressuscité Lazare, c'est par le Saint-Esprit que Jésus est lui-même ressuscité plus tard. Ce verset nous montre l'action conjointe, la toute-puissance de la parole et de l'esprit. Jamais la parole sans l'esprit, jamais l'esprit sans la parole. Ils sont indissociables, on ne peut pas les disséquer, jamais les séparer. Mais ce miracle extraordinaire, je suis désolé, au verset 44, c'est un miracle inachevé. C'est pas terminé. La parole et l'esprit ont fait leur part, mais derrière, ceux qui sont là ont leur part à faire. Puisque Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Le vent souffle, l'esprit de résurrection est là. Mais c'est à nous d'ouvrir nos cœurs, c'est à nous de sortir la grand voile, c'est à nous d'ouvrir les fenêtres, c'est à nous d'ouvrir les trappes, c'est à nous d'eux. On avait vu la semaine dernière, souvenez-vous, dans ce vent de la résurrection, Ézéchiel chapitre 37, on avait vu que le vent de l'esprit pouvait ressusciter ceux qui étaient morts spirituellement, ceux qui, selon ce que dit Ézéchiel, étaient complètement secs, c'est-à-dire qui était mort et bien mort, et depuis longtemps. Mais Dieu a impliqué son serviteur dans cette œuvre. Il lui a dit « prophétise ». Pour nous aujourd'hui, ça veut dire « parle de ma part ». Tu vas dire ce que je te demande de dire. Tu vas te tenir à mes pieds, tu vas être sensible à ma voix, tu vas écouter, tu vas être sensible à l'esprit, tu vas recevoir non pas tes paroles, tu vas recevoir mes paroles, ce que moi, je sais qu'ils ont besoin d'entendre, et tu vas leur dire ce que je veux que tu leur dises. Et Ézéchiel dit, je leur parlais en fonction de l'ordre que j'avais reçu de l'Éternel. Dieu a impliqué son serviteur. Et c'est, on s'en est aperçu, c'est seulement quand on est attentif, quand on est sensible à la voix de Dieu, quand on est coopératif, quand on est, oui, soumis, obéissant au Saint-Esprit, qu'il peut vraiment se passer des choses en nous et à l'extérieur. Ici, dans ce récit de la résurrection, il y a deux impératifs qui entourent la résurrection. Avant la résurrection, Jésus a dit « ôtez la pierre » et ensuite il a dit « déliez-le et laissez-le aller ». Je ne m'attarderai pas sur ôter la pierre, verset 39. Moïse Urtrel était là il y a pas longtemps. Il a prêché là-dessus. Je vous renvoie à son message sur le site internet. J'ai aussi un message sur le site internet où je vous avais parlé de tous ces murs que nous devons abattre dans nos vies pour favoriser l'action de l'esprit. Je vous renvoie à ces messages. Je peux pas tout dire aujourd'hui. Ce qui retient mon attention pour aujourd'hui, c'est l'impératif de Jésus. Déliez-le et laissez-le aller. En lisant cela, je me suis posé la question pour moi-même. Est-ce que je me contente d'être sorti du tombeau, d'être né de nouveau, de sentir un peu d'air frais, de marcher un petit peu? Est-ce que je laisse l'œuvre de Dieu se faire jusqu'au bout dans ma vie et dans celle des autres? Oui, Lazare est sorti du tombeau. Oui, je suis, vous êtes nés de nouveau. Oui, nous sommes ressuscités par l'action conjointe de l'esprit et de la parole. Oui, il est vivant, il respire, il marche, mais il est complètement lié. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui marche, qui respire et qui se meut et qui est complètement lié? Ça s'appelle une une momie, quelqu'un qui est vivant, qui respire et qui, on va même pas dire qui marche, mais qui se meut, qui a les pieds, les mains et le visage liés, je m'excuse, ça s'appelle une momie. Je me suis dit, mon pauvre Steph, j'espère que t'es un vrai ressuscité ou t'es une momie? Lazare, qui est sorti de son tombeau, qui est né de nouveau, mais qui est encore lié par tellement de bandelettes, c'est la réalité de beaucoup de vies chrétiennes. Nés de nouveau, sortis de leur ancienne vie, sortis de leur tombeau, mais pas encore totalement entrés dans l'avenir que Dieu avait pour eux. L'œuvre n'est pas terminée, elle a commencé, elle a bien commencé. Tu n'es pas encore allé jusqu'au bout du plan. Dieu veut des ressuscités. Complet, total, 100%. Pas des momies. Quand Jésus a crié « Stéphane, sors !» À votre avis, il voyait quoi ? Il voyait pas une momie. Quand Dieu t'appelle par ton prénom, qu'il se révèle à toi, qu'il te fait naître de nouveau, et qu'il t'a dit, par ton prénom, sors, il voyait pas une momie. Il voyait un vrai ressuscité, en pleine possession de tous ses moyens, de toutes ses facultés, à cause de ceux qui les entourent, de sorte qu'ils voient bien Lazare, et pas une ébauche, pas une esquisse, pas un à peu près. Dieu veut que ceux qui sont sortis de leur tombeau soient de vrais ressuscités, parce qu'ils deviennent aux yeux des autres de véritables témoins, des témoins puissants, des témoins reconnaissables, des témoins identifiables. Tant que le Lazare que je suis est encore enfermé et lié par toutes sortes de bandelettes, les gens y voient l'ombre du commencement, du début de peut-être un chrétien qui, avec le temps, on a espérance que il y a un vrai truc qui sorte de lui, là. Quand il a été délié, ils ont vu, ils ont reconnu Lazare. Ils ont dit, ah oui, c'est bien lui. Il était complètement sec, mais alors sec de chez sec, parce que ça sentait la mort. Et il est vivant, plus que vivant, au même titre que n'importe qui d'autre, au même titre que Jésus. Il est là, il est assis à côté de Jésus. Et du coup, comme il n'est pas enveloppé, on le reconnaît. On dit, ah oui, c'est bien lui, c'est Lazare. Oh hey, mais la fille qui est là sur le bureau d'à côté, là, c'est elle, c'est bien elle. Ah oui, c'est bien elle, je te garantis. Et elle a changé, elle a été transformée. Je sais pas qui c'est cette nana, je la reconnais bien, elle s'appelle une telle. Ce n'est plus la même. Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. C'est plus la même. Il y a eu une authentique résurrection avec un processus qui va jusqu'au bout. Et à partir de ce moment-là, ceux qui étaient autour, on a lu Jean 11, 45, plusieurs, crurent en Jésus. Mais quand ils ont vu Lazare dans toute sa splendeur, dans toute sa dimension de résurrection, dans toute sa dimension de vie, il nous est dit au chapitre 12, verset 11, beaucoup crurent en Jésus. Une multitude. Et à partir de ce moment-là, parce qu'il y a eu de vrais ressuscités, les choses ont commencé à bouger sérieusement. Les gens n'étaient plus indifférents. Tant qu'il y a des momies, tant que je suis une momie là où je suis, les gens, ça va pas les déranger. Ça peut soit les interpeller, soit les faire sourire. C'est tout. À partir du moment où j'entre vraiment dans la dimension de résurrection et dans l'avenir que Dieu a pour moi, ça va bouger. Les gens, ils vont voir un vrai ressuscité. Donc, soit ils se donnent à Jésus, soit ils essayent de te flinguer. C'est obligé. Soit ils craquent, soit c'est insupportable, ils essayent de te détruire. Mais les gens qui restent totalement indifférents, et c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup trop de momies et ça les impressionne pas. Et même une momie, vous savez, ça fait un peu peur, hein. Oui, mais il y a des, pardon, on peut être chrétien et des fois on fait peur. On peut faire peur par nos raisonnements. On peut faire peur par certaines choses. On se dit, oh là là, c'est quoi ce tuluberlu, là? Ah, il est sorti de son tombeau, il est encore un peu enveloppé, mais bon, t'inquiète pas, l'œuvre va se faire. Oui, mais les gens qui sont autour de nous, est-ce qu'ils vont être obligés d'attendre encore 10 ans, encore 15 ans, encore 20 ans pour voir à quoi Jésus pensait quand il a dit « Stéphane, sors !» Il y a eu un vrai impact à partir de ce moment-là. Les gens sont venus en nombre. Chapitre 12, verset 9, une grande multitude de Juifs sont venus. Alors oui, bien sûr, on va dire, ils sont venus peut-être pour des mauvaises raisons. Ils sont peut-être venus comme au spectacle. Ils sont venus vérifier. Ils sont venus inspecter. Ils sont peut-être venus par curiosité malsaine. Oui, mais ils sont venus. Et Lazare, ils l'ont vu. Et c'était indéniable. Et même s'ils étaient venus avec l'intention de dire, ouais, il y a encore un gros subterfuge dans cette église évangélique. Je sais pas ce qu'ils vont essayer de nous vendre. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Quand ils ont vu Lazare, ils étaient peut-être venus pour pas y croire. Mais quand ils l'ont vu, c'est... Ah zut, il y a vraiment un Dieu qui ressuscite tout ce qui est mort en nous. Il y a vraiment un Dieu qui peut reconstruire tout ce qui est cassé à l'intérieur des gens. Il y a vraiment un Dieu qui change le mal en bien. Il y a vraiment un Dieu qui nous enlève nos têtes d'horloge et nous donne une vie puissante. Il y a vraiment un Dieu qui peut faire ces choses-là. Et quand ils ont vu Lazare, peu importe pour quelle raison ils sont venus le voir, c'était indéniable. Ils étaient obligés de voir qu'il y avait un Dieu qui était plus grand que toute forme de mort en eux. Mais il a fallu que les bandelettes soient enlevées. Lazare, pas sorti du tombeau. Lazare sorti de son tombeau et délié. Le chrétien, pas seulement né de nouveau, le chrétien né de nouveau est libre de tout ce qui a triomphé de lui, qui est entré pleinement dans la vie et dans l'avenir, dans la position spirituelle que Dieu a pour lui, il est la preuve vivante qu'il existe un Dieu de miracle, un Dieu de l'impossible. Et du coup, les gens, c'est pas qu'ils ne peuvent pas croire, c'est qu'ils ne veulent pas croire. C'est toute la différence. Mais ils ne peuvent plus nier. Quand ils ont vu dans quel état j'étais et qu'ils voient ensuite qui je suis, son bon Dieu, il m'énerve au possible, mais c'est indéniable. Il y a eu vraiment un sacré miracle. Un changement radical, une transformation. Il était complètement mort, il était complètement sec et il est plus vivant que jamais. La puissance de la résurrection, la puissance du témoignage de la résurrection. Et ils ont vu, malgré eux, qu'il y avait un Dieu de miracles. Excusez-moi, pas un bon Dieu qui fait ce qu'il peut pour nous éviter des galères. Pas le petit Jésus de la crèche. C'est pas le petit gris-gris protecteur. Oh, mais tu sais, moi je vais à l'église évangélique, tu devrais venir à l'église avec moi. Tu sais, le Seigneur, il peut t'aider. Depuis quand Jésus il est venu pour me donner un coup de main? Il n'est pas venu me donner un coup de main. Il est venu me transformer. Il est venu me ressusciter. Il est venu me faire passer des ténèbres à la lumière. Il est venu me faire passer de la mort à la vie. Il est venu m'apporter toute la dimension de sa vie, de sa puissance, de sa plénitude. Quelqu'un a dit dans sa prière tout à l'heure, « Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. J'ai tout. J'ai tout. » Tout. On peut pas faire mieux que tout. Donc, il a été la preuve vivante. Ils ont été obligés de voir qu'il n'avait pas un petit Jésus ou un petit Dieu qui allait arranger deux, trois trucs dans sa vie. Que c'était pas une petite béquille, sa religion. Mais qu'il avait un Dieu vivant. Un Dieu bien vivant, bien réel, bien concret, invisible, mais tellement réel, tellement palpable. Un Dieu qui se révèle. un Dieu qui se fait connaître, un Dieu compatissant, un Dieu qui est tout puissant. Ils vont finir par dire amen. Un Dieu qui amène la vie et l'harmonie où il y avait la ruine. Vous dites amen quand vous voulez. Un Dieu qui vient là où il y avait la désolation, là où il y avait le chaos, où il y avait la mort, il n'y avait pas de solution. Humainement parlant, c'était fini, c'était mort. Bienvenue au culte. Et ils ont été obligés d'admettre qu'il y avait ce Dieu qui était là. Quand c'est fini, quand c'est mort et bien mort, quand il était complètement sec, selon ce que dit Ézéchiel 37, le Seigneur n'a pas fait deux, trois améliorations. Il l'a totalement ressuscité et complètement transformé. Et ils ont vu ceux qui étaient là, peu importe leur motivation ou leurs intentions, ils ont vu quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Vous savez l'expression, vous connaissez ? Ah ben, lui, elle, ah ben c'est le jour et la nuit. Il est méconnaissable. C'est vrai ou pas ? On dit c'est le jour et la nuit. C'est une expression, c'est juste. Ils l'ont vu. Ils ont vu à côté de lui Jésus, le Dieu qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ils sont venus à Jésus grâce à lui. Ils ont vu un Lazare complètement vivant. Ils n'ont pas vu une momie. Ils n'ont pas vu une religion. Ils n'ont pas vu un code moral. Ils n'ont pas vu un bâtiment évangélique. Ils n'ont pas vu tout ce genre de choses. Ils n'ont pas vu une esquisse. Ils n'ont pas vu une ébauche. Ils ont vu Lazare totalement métamorphosé. Je me suis dit en méditant hier soir, en considérant cette transformation, cette résurrection, ce changement radical, je me suis dit, mon petit Steph, les gens qui te côtoient, ils voient quoi quand ils te regardent ? Un code moral ? Une religion ? Qu'est-ce qu'ils voient, les gens, quand ils me regardent, moi ? Est-ce qu'ils voient à peu près les mêmes bandelettes sur moi que sur eux, à cette différence près que ils sont encore dans le tombeau et que moi j'en suis sorti. Mais quand ils me regardent, s'ils voient les mêmes incapacités, les mêmes liens, les mêmes entraves, les mêmes faiblesses, les mêmes échecs, le même manque de ressources, le même manque de solutions, le même manque de vie, s'ils voient les mêmes soucis, s'ils voient les mêmes inquiétudes, s'ils voient sur moi les mêmes bandelettes. Ouais, ben c'est vrai que lui, il y a un peu plus de lumière dans son église que dans la nôtre. Il y a un peu plus de jour de ce côté-là que de ce côté-là. Mais enfin, quand tu le regardes, excuse-moi, quand on voit des chrétiens comme ça, bon, ils sont pas si différents de nous. Hein, et alors Jésus, ils en parlent beaucoup, mais enfin, bon, hein. Les gens qui me côtoient, ils voient quoi ? C'est gênant comme question, je sais, mais pourtant c'est super important. Depuis le temps qu'ils me voient, est-ce qu'ils ont vu, non pas des améliorations ? Ah, je suis content, ma femme, elle a quand même fait un petit peu de progrès ces derniers temps. Je sais qu'il faut du temps, je sais qu'il y a des processus, des fois dans la compréhension, dans la sanctification, dans les prises de conscience. Je sais que des fois, je sais qu'on est dans un processus de marche avec Dieu, les choses se font au fur et à mesure. Mais le Seigneur n'a pas dit non plus qu'il faudrait attendre 40 ans de vie chrétienne pour qu'on commence à voir l'ombre du début de la vie et de la puissance de Jésus en moi. Il faut être équilibré. Et s'ils voient les mêmes bandelettes, alors c'est sûr, Lazare au verset 44, ressuscité, on va dire pour nous né de nouveau, qui a encore les pieds, les mains liées, le visage. Réfléchissez, s'il a les pieds, le corps aussi, mais essentiellement les pieds, les mains et le visage enveloppé de bandes. Ça veut dire que Lazare, il est incapable de se déplacer tout seul. Il est incapable de se diriger. Il va faire des petits pas, il va beaucoup se fatiguer, il va tourner en rond. S'il a le visage entouré de bandelettes, ça veut dire qu'il ne voit rien. Il voit pas la misère des gens qui sont autour. Il voit rien. Il n'a pas de vision. Il n'a pas de vision d'avenir. Il est chrétien, il est sorti de son tombeau, il n'a pas de vision d'avenir. Il n'a pas de vision de la misère qui se passe de l'autre côté de sa bandelette. Si il a le visage couvert de bandelettes, ça veut dire que son ouïe, elle doit être sérieusement altérée. Il doit entendre un petit peu le cri des malheureux, mais il doit les entendre de loin. Les conversations, les cris, les demandes, les appels, les besoins, ce qui se passe autour, il n'entend pas de façon claire, nette, distincte. Il entend une espèce de brouhaha, il y a quelque chose là. C'est vrai qu'il y a tellement de gens d'agitation, il y a tellement de perdus là, il y a tellement de... Mais il n'entend pas bien et il ne voit pas bien. Puis s'il a les mains liées, il ne peut rien faire. Il est totalement inopérationnel. Il n'est pas en pleine possession de ses capacités. Il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Il est incapable de se diriger. Il est incapable d'aller quelque part. Il est incapable d'agir. Il est incapable de voir. Il est incapable d'entendre. Bref, il est sorti de son tombeau, mais il n'a pas d'avenir. Il tourne en rond. La première chose que j'ai dite au tout début de la série sur le Saint-Esprit, c'est que si nous ne sommes pas authentiquement remplis du Saint-Esprit, peu importe le symbole qu'on va mettre, si nous ne sommes pas authentiquement remplis de l'Esprit de Dieu, si l'Église de Jésus ne retrouve pas la plénitude du Saint-Esprit, elle reste pauvre, misérable, aveugle, vulnérable, et elle tourne en rond. C'est vrai ou pas? Et là, ici, vous en avez encore un exemple très simple. Alors, le miracle a commencé. Amen, c'est très bien. Mais le miracle n'est pas terminé. On n'a pas été au bout du plan. Et en réalité, Lazare, à ce moment-là, au verset 44, Lazare, comme vous, comme moi, comme beaucoup de chrétiens, Lazare, il est entre deux. Comme le peuple qui était bel et bien sorti d'Égypte, mais pas encore entré dans le Canaan que Dieu lui avait promis. Il était entre deux. Comme Samson. Peut-être, si Dieu le permet, je vous parlerai bientôt de Samson et je vous parlerai du vent qui nous dérange, le vent qui nous secoue, le vent qui ne nous laisse pas tranquille. Et je vous parlerai de la vie de Samson, Dieu voulant, et je vous montrerai comment Samson, malheureusement, malgré les quelques exploits héroïques, et il a mis de la poudre aux yeux à tout le monde avec 2-3 miracles, 2-3 trucs explosifs. Mais je vous montrerai comment Samson, il a passé toute sa vie entre deux. Il a été nulle part. Il est resté toute sa vie entre deux. Entre deux, Lazare est entre deux. Mais ça, c'est pas le projet de Dieu, c'est pas ça le plan. Dieu veut pas des chrétiens qui vivent dans toutes sortes de limites, dans toutes sortes d'entraves. Si le monde voit des chrétiens qui sont enfermés, qui sont sclérosés, qui sont limités, qui vivent dans toutes sortes d'incapacités et de faiblesses. Aujourd'hui, le monde a besoin de voir de véritables ressuscités. Ressuscités et déliés. C'est Lazare ressuscité et délié qui a fait toute la différence. Quelles sont ces bandelettes qui peuvent encore lier ma vie? Chacun devra répondre pour sa propre part. Quelle bandelette est-ce que je suis capable d'identifier? Ce qui m'entrave encore? Ce qui empêche toute la dimension de résurrection et de vie du Seigneur de m'amener à me mouvoir, à entendre, à voir, à agir, à parler efficacement, à agir efficacement? Quelles sont ces bandelettes? Les bandelettes, elles viennent d'où? Les bandelettes, elles viennent de la tombe. D'accord? Elles viennent de l'époque où il était mort. Elles viennent de la tombe. Ces bandelettes, c'est tout ce qui date de l'époque où tu étais mort sans Dieu et que tu te traînes encore. Ces bandelettes, c'est tout ce qui peut faire penser aux autres que tu n'es pas si différent d'eux. Ces bandelettes, ça peut être les liens de notre ancienne vie, c'est-à-dire tous les liens de péché sous toutes ses formes, qui sont pas réglées, qui sont pas coupées, qu'on n'a pas détruites, qu'on n'a pas enlevées. Ce sont les liens qui empêchent les autres de voir le cœur et le caractère, la vie, les puissances de résurrection qu'il y a en toi. Ces bandelettes, c'est tout ce qui date de l'époque où tu étais mort sans Dieu. Ces bandelettes, c'est tout ce qui est lié à ton ancienne vie, à ta vie de péché, à ton caractère, à ton moi. Ces bandelettes qui t'empêchent d'être le ressuscité que Jésus veut que tu sois, c'est peut-être juste ton caractère. Parce que c'est mon ego, parce que c'est le moi, et ça vient de l'ancienne vie. C'est l'ego, c'est le moi qui sait, qui dit et qui pense, qui parle, beaucoup trop vite, beaucoup trop souvent, qui parle, c'est le moi qui dit, c'est le moi qui parle, c'est le moi qui agit, c'est moi qui conduit, c'est moi qui sais, je pense que c'est comme ça et je vois pas pourquoi je devrais changer et je pense que c'est comme ça. Puis les autres, ils te regardent au boulot puis ils se disent mais finalement, ça te sert à quoi? Est-ce que c'est mon caractère? Mes réactions? Ça peut être mon ego, mon orgueil, ma suffisance, ça peut être mon indifférence, ça peut être que j'ai la parole et j'ai la querelle trop facile. C'est quoi ces bandelettes? Est-ce que c'est mes blessures d'enfance? On a vu à la session de jeûne et prière. Comment est-ce que je vais devenir un térébinthe de la justice si j'ai pas été guéri moi-même? Comment les autres vont avoir envie d'être guéris s'ils me voient pas guéri moi-même et épanoui moi-même? Si je suis encore traumatisé par l'histoire du tonton, de la tata, du pépé, du papa, de la maman, de ceci, de cela, c'était super grave. Oui, mais tant que c'est pas réglé, les autres, ils me regardent, ils disent, oh, t'as encore des bandelettes, hein. Il y a que toi pour pas les voir. Est-ce que c'est mes blessures d'enfance? Est-ce que c'est mes problèmes intérieurs? Parce que je suis encore dans l'introspection, parce que je vis encore dans toutes sortes de tristesses ou d'abattements ou d'échecs, parce que je suis apathique, je peux être léthargique, j'ai peur, je suis inquiet. Mais si je suis inquiet pour l'argent comme les autres, il sert à quoi ton Dieu? Il t'a piqué 10% le dimanche matin? Ah non. Ben merci beaucoup, c'est pas de mal à veille que je donnerai à ta quête, hein. Merci. À quoi ça sert? Est-ce que c'est ma timidité? Est-ce que je suis introverti? J'ai pas trouvé la vraie liberté des enfants de Dieu. J'ai pas trouvé ma vraie identité en Christ. Est-ce que ça peut être des dépendances? Est-ce que ça peut être des addictions? Il y en a des choses. Est-ce que ça peut être des compromis? Et c'est seulement dans notre vie avec Dieu, je viens pas là-dessus, vous le savez, mais c'est seulement dans notre communion, dans notre vie avec le Saint-Esprit, dans la communion du Saint-Esprit, que toutes ces œuvres peuvent s'achever en moi, ça se passe entre lui et moi, entre moi et lui, dans l'intimité. Mais qu'est-ce qui me limite? Quelles sont mes bandelettes? Chacun devra mettre des noms différents. Et puis, il y a aussi le fait que ces bandelettes empêchent les gens de voir le vrai ressuscité, qui porte l'image de Jésus. Ma bandelette, c'est peut-être une limite de patience. Elle me limite. Le manque de patience, ça me limite. Le manque d'amour, le manque de compassion, ça me limite. Le manque de victoire personnelle, le manque de ressources intérieures, manque d'assurance, manque de vigueur, manque de plénitude, manque d'épanouissement, manque de conviction. Je suis convaincu. Il faut que Lazare soit complètement libéré. Le plan de Dieu, c'est pas seulement que je sorte de ma tombe, que je sorte de mon ancienne vie, que je naisse de nouveau. Le plan de Dieu, c'est que le Lazare que je suis, Lazare que tu es, soit complètement ressuscité et complètement délié de tout ce qui entrave, de tout ce qui l'empêche de vivre la dimension de vie de Dieu et qui empêche les autres de voir Jésus, de voir l'esprit de résurrection en lui. Et quand Jésus a crié « Lazare, sors !» il voyait pas une ébauche, il voyait pas une esquisse, il voyait pas un Lazare, pardonnez-moi, à moitié restauré. Quand l'Esprit a transporté Ézéchiel dans la vallée d'ossements, il a pas vu seulement des gens, des ossements qui commençaient à se rapprocher, une forme de vie qui commençait à revenir avec les nerfs et la peau. À un moment, le texte dit, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le plan était pas fini. Ils n'avaient pas été jusqu'au bout du processus. Il y avait une forme de vie qui était là, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Et il a fallu une autre étape pour qu'il y ait vraiment ensuite des hommes, des femmes qui soient totalement restaurés, totalement matures, totalement actifs, totalement efficaces, totalement capables, totalement libres, totalement remplis, afin de pouvoir en gagner d'autres à leur tour. Et cette œuvre-là, elle ne se fait que dans la communion du Saint-Esprit. Elle ne se fait que dans l'intimité. Je sais pas, mon frère, ma sœur, alors que tu es chrétien, que tu es né de nouveau, que tu es sorti de ton ancienne vie, que tu es sorti d'Égypte, que tu es sorti de ton tombeau, que tu es entré dans un processus de résurrection. Le Saint-Esprit, et toi aussi, moi aussi, on sait quelles sont les bandelettes qui nous retiennent et qui nous empêchent de vivre totalement et pleinement la vie de Dieu. Et si tu as un doute, ben demande-lui. Mais attention, il va te les montrer, hein. Le monde, aujourd'hui, a besoin de voir de véritables ressuscités. Ressuscités et déliés. C'est Lazare ressuscité et délié qui a fait toute la différence. Amen. On se recueille, s'il vous plaît.